Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant le salut. On en a beaucoup fait déjà, mais il y a des choses étonnantes que le Seigneur me met par l'Esprit Saint de vous dire, même aujourd'hui. Le numéro 5, étude numéro 5 d'aujourd'hui sera de la prison au paradis. Chers amis, les évangiles nous disent, selon Saint Luc, chapitre 23, versets 40 à 49, et lorsque ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent. Et je me rends compte que ça doit être Saint Luc 23, versets 40 à 43. Alors je répète. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'un des malfaiteurs dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entrer dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » J'ai pris ça d'une version allemande, mais soyez tranquille, vos versions françaises sont pareilles. Premièrement, à partir de ces versets, nous devons apprendre la puissance de Christ et sa volonté à sauver les pécheurs. Telle est la doctrine principale qui doit être tirée de l'histoire du voleur repenti. Elle nous enseigne ce qui devrait être une musique aux oreilles de tous ceux qui l'entendent. Elle nous enseigne que Jésus-Christ est puissant pour sauver. Ésaïe 63, verset 1. Je demande à quiconque de dire si un cas pourrait paraître plus lamentable et désespéré que ne le fut celui de ce voleur repenti. Il était un homme mauvais, un malfaiteur, un voleur, si ce n'est un meurtrier. Nous ne le savons pas exactement, parce que seules de telles personnes étaient crucifiées. Pour avoir enfreint la loi, ils subissaient un châtiment mérité et équitable. Tout comme il avait vécu en impie, il semblait aussi déterminé à mourir en impie, car au début, lorsqu'il fut crucifié, il se répandait en injures contre le Seigneur. Il était un homme mourant. Il pendait là, cloué à une croix dont il ne redescendrait jamais vivant. Il ne pouvait plus remuer une main ou un pied. Ses heures étaient comptées. Sa tombe était prête et l'attendait. Il n'y avait plus qu'un pas entre lui et la mort. S'il y eut jamais une âme suspendue au bord de l'enfer, eh bien ce fut celle de ce voleur. S'il y a eu jamais un cas qui semblait aussi perdu, fichu et irrémédiable, ce fut le sien. S'il y avait déjà eu un enfant d'Adam que le diable était certain de posséder. Eh bien, c'était bien cet homme-là. Mais voyons maintenant ce qui s'est passé. Il cessa tout à coup de proférer des injures et de blasphémer comme il avait fait au début. Il se mit tout à coup à parler totalement d'une autre manière. Dans la prière, il s'est tourné vers notre Seigneur béni et il demanda à Jésus de se souvenir de lui lorsque il entrerait dans son règne. Il demanda que l'on prenne soin de son âme, que ses péchés soient pardonnés, et il pensa qu'il pourrait être dans un autre monde. Ce fut vraiment un changement merveilleux. Et ensuite, notez le genre de réponse qu'il reçut. Certaines personnes diraient qu'il était un homme trop mauvais pour être sauvé, mais ce n'était pas le cas. Certains auraient pu imaginer que c'était bien trop tard, la porte était fermée et il n'y avait plus de place pour la miséricorde. Mais il s'avéra qu'il n'était pas du tout trop tard. Le Seigneur Jésus lui répondit immédiatement et il lui parla avec gentillesse et il lui assura qu'il serait avec lui ce même jour au paradis. Il lui pardonna totalement, il le purifia parfaitement de tous ses péchés. Il le reçut avec miséricorde, il le justifia gratuitement. Il l'arracha aux portes de l'enfer et lui donna un titre de gloire. De toute la multitude des âmes sauvées, pas une ne reçut jamais une assurance aussi glorieuse de son propre salut comme ce fut le cas pour le voleur repenti. Parcourez un peu toute la liste depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et vous ne découvrirez personne qui ait entendu dire des paroles telles que celles-ci. « Aujourd'hui, a dit le Seigneur, tu seras avec moi dans le paradis. » Je crois que le Seigneur Jésus n'a jamais donné une preuve aussi complète de sa puissance et de sa volonté à sauver comme il l'a fait à cette occasion. Le jour où il semblait très faible, il montra qu'il était un libérateur puissant. À l'heure où son corps était torturé par la souffrance, il montra ce qu'il pouvait tendrement ressentir pour les autres. Au moment où il était lui-même en train de mourir, il accorda à un pécheur la vie éternelle. Maintenant, n'ai-je pas le droit de dire que Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui? Hébreux, chapitre 7, verset 25. En voici la preuve. Si jamais pécheur avait été trop loin pour être sauvé, c'était bel et bien ce voleur. Pourtant, il fut arraché du feu éternel. N'ai-je pas le droit de dire que Christ recevra n'importe quel pauvre pécheur qui vient à lui avec la prière de la foi et qu'il n'en rejettera aucun? Et voici la preuve. S'il y a jamais eu quelqu'un qui semble trop mauvais pour être accueilli, c'était cet homme-là. Pourtant, la porte de la miséricorde était grande ouverte, même pour lui. N'ai-je pas le droit de dire que c'est par la grâce que vous devez être sauvé par le moyen de la foi et non par les œuvres? Ne craignez pas, croyez seulement. Et en voici la preuve. En voici la preuve. Ce voleur ne fut jamais baptisé. Il n'appartenait à aucune église visible, même pas la vôtre. Il ne reçut jamais la Sainte Cène. Il ne fit jamais aucune œuvre pour Christ. Il ne donna jamais d'argent pour la cause de Christ. Mais il a eu la foi. Et c'est ainsi qu'il fut sauvé. N'ai-je pas le droit de dire, la foi la plus jeune sauvera même l'âme d'un homme, si seulement elle peut être vraie. En voici la preuve. La foi de cet homme n'avait seulement que un jour, mais, elle l'amena à Christ et elle le sauva de l'enfer. Pourquoi alors un homme ou une femme désespérerait-il avec un passage tel que celui-ci dans la Bible ? Jésus est un médecin qui peut guérir les cas désespérés. Il peut ranimer les âmes mortes et il peut nommer des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Aucun homme, ni aucune femme, ne devrait jamais désespérer. Jésus est exactement le même à l'heure actuelle qu'il ne l'était il y a 1900 ou même plus de 2000 ans. Les clés de la mort et de l'enfer se trouvent dans sa main. Lorsqu'il ouvre, eh bien personne ne peut fermer. Malgré que vos péchés soient plus nombreux que vos cheveux, malgré que vos mauvaises habitudes aient grandi avec votre croissance et qu'elles se soient fortifiées avec votre force, malgré que jusqu'ici vous ayez haï le bien et aimé plutôt le mal, vous comprenez, jusqu'à présent vous avez plutôt aimé le mal et que vous n'avez pas trop aimé de faire le bien, et cela tous les jours de votre vie. Ça, ces choses, toutes ces choses-là sont effectivement tristes, mais il y a de l'espoir. Oh oui, même pour vous, Christ peut vous aider. Christ peut vous relever de votre basse condition. Le ciel ne vous est pas fermé. Christ peut vous y faire entrer si vous confiez humblement votre âme entre ses mains. Voyez-vous, hier, je pouvais presque pas parler. Aujourd'hui, eh bien, 24 heures plus tard, on peut dire, le Seigneur a fait un miracle, je peux vous parler clairement. Donc, j'en profite. Vos péchés sont-ils pardonnés? Si ce n'est pas le cas, je mets devant vous aujourd'hui même un salut total et gratuit. Je vous invite à suivre les pas du voleur repenti, venez à Christ et vivez. Je vous dis que Jésus est rempli de compassion et de miséricorde. Je vous dis qu'il peut faire tout ce que votre âme requiert. Bien que vos péchés soient aussi écarlates, il peut les rendre aussi blancs que la neige. Bien qu'ils soient rouges comme le cramoisi, ils seront blancs comme la laine. Pourquoi ne seriez-vous pas sauvé aussi bien qu'un autre? Venez à Christ et vivez. Êtes-vous un vrai chrétien? Je vous le demande. Si vous l'êtes, vous devriez vous glorifier en Christ. Ne soyez pas fiers de votre propre foi, de vos propres sentiments, de votre connaissance, de vos prières, de votre modification et de votre zèle. Ne soyez fiers de rien, au fond, si ce n'est de Christ. Hélas, le meilleur ami, eh bien, le meilleur ami, ne sait que peu de choses de ce Sauveur. Cet ami pendu à côté du Sauveur, il ne savait rien de ce Sauveur miséricordieux et puissant. Nous ne nous ne le glorifions pas et nous l'exaltons pas assez. Alors prions afin que nous soyons davantage et que nous voyons surtout davantage la plénitude qui est en lui. Avez-vous déjà essayé, par exemple, de faire du bien aux autres? Ça vous ferait pas de mal d'essayer. Si vous le faites, pensez à leur parler de Christ. Parlez-en aux jeunes, aux pauvres, aux personnes âgées, aux ignorants, aux malades et aux mourants. Oui, parlez-leur de Christ. Parlez-leur de sa puissance et de son amour. Parlez-leur de ses œuvres et de ses sentiments. Parlez-leur de ce qu'il a fait pour le chef des pécheurs. Dites-leur ce qu'il veut faire dans les derniers temps. Parlez-leur à plusieurs reprises. Ne vous fatiguez jamais de parler de Christ. Dites-leur dans les grandes lignes, totalement gratuitement et inconditionnellement. Et je voudrais ajouter franchement et indubitablement, dites-leur, venez à Christ, venez à Christ. Comme l'a fait le voleur pénitent, venez à Christ et vous serez perdu. Ah ben non, et vous serez sauvé. Alléluia. La seconde leçon que nous devons tirer de ce passage est la suivante. Si certaines personnes sont sauvées à l'heure même de la mort, d'autres ne le sont absolument pas. Ceci est une vérité qui ne devrait jamais être passée sous silence et je n'ose pas la laisser inaperçue. C'est une vérité qui ressort clairement dans la triste fin de l'autre malheureux et qui est beaucoup trop souvent totalement oubliée. Les hommes oublient qu'il y avait deux voleurs. Qu'est-ce qu'il est advenu de l'autre voleur qui fut crucifié? Je vous le demande. Pourquoi ne s'est-il pas détourné de son péché et n'a-t-il pas invoqué le Seigneur? Pourquoi est-il demeuré endurci et impénitent? Pourquoi ne fut-il pas sauvé? Il est inutile d'essayer de répondre à de telles questions. Contentons-nous de prendre le fait tel qu'il est et de voir ce qu'il est supposé nous enseigner. Nous n'avons absolument aucun droit de dire que ce voleur était un homme pire que son compagnon, pas du tout. Il n'y a rien qui le prouve. Tous les deux étaient manifestement des hommes mauvais. Tous les deux recevaient une juste rémunération pour ce qu'ils avaient fait. Tous les deux étaient pendus de chaque côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les deux l'entendirent prier pour ses bourreaux. Et tous les deux l'ont vu souffrir avec patience. Mais tandis que l'un se repentit, l'autre resta endurci, tandis que l'un commençait à prier, l'autre continuait de proférer des injures, tandis que l'un se convertissait au cours des dernières heures de sa vie, l'autre mourait comme il avait vécu, c'est-à-dire en homme mauvais. Tandis que l'un était amené au paradis, l'autre s'en allait vers le lieu qui lui était assigné, là où sont le diable et ses démons. Ainsi, ces choses sont écrites pour nous avertir. Dans ces versets se trouve un avertissement ainsi que du réconfort, et cet avertissement est également très sérieux. Ces versets me disent avec certitude que bien que certaines personnes se repentent et soient converties sur leur lit de mort, il ne s'ensuit pas du tout que toutes le seront. Un lit de mort n'est pas toujours un temps de salut. Ils me disent clairement que deux hommes peuvent avoir les mêmes occasions pour obtenir du bien pour leurs âmes et qu'ils peuvent être placés dans la même position. voir et entendre les mêmes choses. Et pourtant, un seul des deux en tirera avantage, se repentira, croira et sera sauvé. Ils me disent, par-dessus tout, que la repentance et la foi sont des dons de Dieu et qu'ils ne résident pas dans le propre pouvoir de l'homme. Et si quelqu'un se flatte de pouvoir se repentir à l'heure qu'il aura choisi, chercher le Seigneur quand ça lui plaît, et comme le voleur pénitent, être sauvé au tout dernier moment, il se peut qu'il découvre à la fin qu'il est grandement et qu'il s'est grandement trompé. Et il est bon et profitable de garder cela à l'esprit. Il y a une énorme quantité d'illusions dans le monde sur ce sujet précis. Je vois de nombreuses personnes permettant, on peut dire, à la vie de, en quelque sorte, de s'éclipser et qui ne sont pas prêtes à mourir. J'en vois beaucoup d'autres reconnaissant qu'elles devraient se repentir, mais qui repoussent toujours leur propre repentance. Et je crois qu'une des raisons principales, c'est que la plupart des hommes pensent qu'ils peuvent se tourner vers Dieu lorsqu'ils en ont envie. Hein? Regardez le monde autour de vous. Voyez ce qui se passe continuellement sous vos yeux. Deux sœurs suivront souvent le même ministère, écouteront les mêmes vérités, entendront les mêmes sermons, et pourtant une seule se convertira à Dieu, tandis que l'autre restera totalement insensible. Deux amis lisent souvent le même livre religieux. L'un est touché par sa lecture. Et il abandonne tout pour Christ. L'autre n'y découvre rien du tout et il continue de vivre comme avant. Je veux que vous vous mettiez, ou que vous plutôt, je voudrais dire le mot, des fois je me trompe, je suis tout de même de langue allemande, mais j'ai pas d'excuse. Donc, je veux que vous puissiez un peu vous méfier, voilà le mot que je cherchais, vous méfier de la présomption. Ça veut dire, n'abusez pas de la miséricorde et de la compassion de Dieu, n'en abusez pas trop. Je vous en supplie, ne continuez pas de vivre dans le péché et de penser que vous pouvez vous repentir, que vous pouvez croire, que vous pouvez être sauvé exactement quand vous le voudrez vous, quand vous allez vous décider vous, quand il vous plaira peut-être, et quand vous l'aurez décidé. Oh, je mettrai toujours devant vous une porte ouverte. Je dirai toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais, si vous vouliez être sage, essayez. Ne remettez surtout pas à plus tard ce qui concerne votre âme. Ça, c'est pas de la rigolade, attention. Vous sentez-vous enclin à prier? Passez tout de suite alors à la pratique. Avez-vous l'idée de commencer réellement à servir Jésus-Christ? Mettez-y vous de suite. Il n'est pas défendu d'avoir des motivations, du zèle pour le Seigneur, bien au contraire. Se balancer entre deux palmiers à Honolulu, c'est pas mal, mais ça ne sauvera personne, même pas vous. Êtes-vous en train de goûter à une révélation spirituelle? Veuillez et veillez surtout à vivre d'après tout cela, de tout ce que vous entendez, ne traitez pas à la légère les occasions, de peur que le jour vienne où vous voudrez les utiliser et que vous ne le pourrez plus du tout. Ne craignez pas de crainte que vous ne deveniez sage trop tard. N'attendez surtout pas mon âge de 88 ans, car ça risque d'être trop tard. Moi, chaque jour, je risque d'être dans la tombe. Et surtout, je sais que je serai porté par les anges au ciel. Peut-être me direz-vous, chers amis, « Oh, il n'est jamais trop tard pour se repentir !» Eh bien, je répondrai, « C'est assez juste, mais une repentance trop tardive, je vous le demande, réfléchissez. Une repentance très tardive est-elle vraiment authentique ?» Et j'ajouterai ceci, « Vous ne pouvez pas être certain si vous rejetez la repentance, que vous vous repentirez pour de bon. Vous pourriez dire, pourquoi devrais-je avoir peur? Le voleur pénitent, il fut sauvé. Je répondrai, ça c'est vrai. Mais regardez de nouveau le passage qui nous dit aussi que l'autre voleur fut absolument perdu. Croyez-le ou pas. La troisième leçon que nous sommes supposés d'apprendre de ces versets, c'est que l'Esprit conduit toujours les âmes sauvées de la même manière. Voilà un fait qui mérite une attention particulière et qui est souvent négligé. Les hommes considèrent le fait général que le voleur pénitent fut sauvé alors qu'il était mourant et il ne voit pas plus loin que leur nez, ils n'examinent pas les preuves que ce voleur a laissées derrière lui, ils n'observent pas la preuve abondante qu'il a laissée, on peut dire, l'Esprit Saint agir dans son cœur. Et ces preuves, je souhaite les faire ressurgir et de vous les montrer. Je veux vous faire voir que l'Esprit Saint agit toujours d'une seule manière, et qu'il convertisse un homme en une heure, comme ce fut le cas du voleur pénitent, ou que ce soit progressivement, comme il agit avec beaucoup d'autres. Les étapes par lesquelles il conduit les âmes au ciel sont toujours les mêmes. Laissez-moi tenter d'éclaircir ce point pour chaque auditeur de cette étude. Je veux vous mettre en garde. Je veux que vous vous débarrassiez de l'idée courante qu'il existe une certaine voie aisée, royale, vers le ciel pour l'âme qui quitte son lit de mort. Je veux que vous compreniez parfaitement que chaque âme sauvée passe par la même expérience et que les principes directeurs de la religion du voleur pénitent, je dis bien, étaient exactement les mêmes que ceux du saint le plus ancien qui ait jamais vécu. Premièrement, chers amis, voyons tout cela. Voyons quelle était la force de la foi de cet homme. Il appela Jésus Seigneur. Il déclara qu'il croyait qu'il aurait un règne. Il croyait qu'il pouvait lui donner la vie et la gloire éternelle. Et avec cette croyance, il le pria. Il a soutenu son innocence malgré toutes les charges qui étaient retenues contre lui. Cet homme, dit-il, n'a rien fait de mal. Non. D'autres personnes ont peut-être pensé que le Seigneur était innocent. Personne ne l'a dit aussi ouvertement si ce n'est ce pauvre homme mourant. Et quand tout ceci a eu lieu, cela est arrivé lorsque tout le pays avait renié Christ en criant « Crucifie-le ! Crucifie-le ! Nous n'avons pas d'autre roi que César !» D'autres ont crié que c'était Hitler, d'autres ont crié que c'était Staline, et aujourd'hui, certains crient que c'était Vladimir Poutine. Et on continue. Lorsque les chefs des prêtres et les pharisiens l'ont condamné et l'ont jugé coupable de mort, lorsque même ses propres disciples l'avaient oublié et s'étaient enfuis lorsque il était pendu, faible, saignant et mourant sur la croix, compté au nombre même des malfaiteurs et considéré vraiment comme étant maudit. Et ce fut à ce moment-là que le voleur commença à croire en Christ et qu'il le pria. Eh bien, une telle foi n'a sûrement jamais été vue depuis le commencement du monde. Les disciples avaient vu des signes et des miracles très puissants. Ils avaient vu des morts ressuscités par une seule parole. Ils avaient vu des lépreux guéris par un simple attouchement. Ils avaient vu des aveugles qui retrouvaient la vue, des muets qui se mettaient à parler, des paralytiques qui se levaient et qui marchaient. Ils avaient vu des milliers de personnes nourries par quelques pains et seulement quelques poissons. Ils avaient vu leur maître marcher aussi bien sur l'eau que sur une terre aride. Tous l'avaient entendu parler comme aucun autre homme n'avait jamais parlé et présenter les promesses des bonnes choses encore à venir. Certains parmi eux avaient eu un avant-goût de sa gloire sur la montagne de la Transfiguration. Il ne fait aucun doute que leur foi était le don de Dieu. Mais ils avaient encore besoin qu'on leur vienne en aide. Le voleur mourant n'a vu aucune des choses que j'ai mentionnées maintenant. Il n'a pas vu que notre Seigneur a agonisé, voyez-vous, dans la faiblesse, dans la souffrance. Il n'avait pas vu ça au début, et même dans la douleur. Il l'a seulement vu subir un châtiment déshonorant, abandonné, moqué, méprisé et blasphémé. Il l'a vu rejeté. Il l'a vu qu'il avait été rejeté par tous les grands, par les sages, par les nobles de son propre peuple. Sa force se desséchait un peu comme l'argile. Et sa vie s'approchait du séjour des morts. Selon le psaume chapitre 22, verset 16, et notez le psaume 88, verset 4. Il ne vit ni sceptre, ni couronne, aucun empire extérieur, aucune gloire, aucune majesté, aucun pouvoir, aucun signe de puissance. Et pourtant, le voleur mourant crut. Et il attendait avec impatience le royaume de Christ. Si vous aviez l'Esprit Saint, le sauriez-vous? Alors notez la question que je vous pose aujourd'hui. Où est votre foi en Christ? Où est-elle? Deuxièmement, voyons quel juste sens du péché le voleur avait. Il dit à son compagnon, « Nous recevons, nous, ce que ont mérité nos crimes, nous méritons notre mort. » Il reconnaît sa propre impiété et l'équité de son châtiment. Il ne fait aucune tentative pour se justifier, rien qui n'excuse sa méchanceté. Il parle comme un homme humilié, comme un homme avili, par le souvenir de ses iniquités passées. C'est ce que ressentent tous les enfants de Dieu, un jour ou l'autre. Ils sont prêts à admettre qu'ils sont de pauvres pécheurs, méritant l'enfer. Et moi, j'ai connu cela. Je savais que je méritais l'enfer. Et comment? Ils peuvent dire de leur bouche, mais aussi de tout leur cœur, nous avons laissé inachevées les choses que nous aurons pu faire ou que nous aurions pu faire. Et nous avons fait des choses que nous n'aurions surtout pas dû faire. Il n'y en a donc aucun bien dans tout cela. Si vous aviez l'Esprit Saint, le sauriez-vous? Alors notez un peu ma question. Sentez-vous vos péchés? Avez-vous une idée que c'est bel et bien vos péchés qui vont vous perdre finalement? Voyons en troisième point quel amour fraternel le voleur montre envers son compagnon. Il tenta d'arrêter ses injures et ses blasphèmes et de l'amener à de meilleurs sentiments. Il lui a dit « Ne crains-tu pas Dieu ? Toi qui subis la même condamnation, il n'y a pas de trace plus sûre de la grâce que celle-ci. La grâce dépouille l'homme de son égoïsme et lui fait ressentir les âmes des autres. Lorsque la Samaritaine s'est convertie, elle laissa sa cruche et elle courut en ville et elle cria « Venez, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Saint Jean, chapitre 4, versets 28 et 29. Lorsque Saul fut converti, il se rendit immédiatement dans la synagogue à Damas et il témoigna à ses frères israélites que Christ était le Fils de Dieu. Acte des Apôtres, chapitre 9, verset 20. Si vous aviez l'Esprit Saint, le sauriez-vous? Alors où sont votre charité et votre amour pour les âmes? Où sont-elles? En résumé, vous voyez dans le voleur pénitent une œuvre accomplie du Saint-Esprit. Chaque élément du caractère du croyant peut être trouvé chez lui. Aussi courte que fut sa vie après sa conversion, il trouva du temps pour laisser une preuve abondante qu'il était un enfant de Dieu. Sa foi, sa prière, son humilité, son amour fraternel sont des témoignages indubitables de la réalité de sa repentance. Il n'était pas seulement un pénitent de nom, mais en action et en vérité. Alléluia. Que personne donc n'aille croire que parce que le voleur pénitent fut sauvé, tous les hommes peuvent être sauvés sans laisser aucune preuve de l'œuvre de l'Esprit Saint. Qu'une telle personne examine même bien quelles sont les preuves laissées par cet homme derrière lui et qu'elle prenne garde. Laissez-moi dire, une fois pour toutes, qu'en règle générale, rien n'est aussi peu satisfaisant que des preuves sur un lit de mort. Voyez-vous les choses que les hommes disent sur un lit de mort et les sentiments qu'ils expriment lorsqu'ils sont malades et surtout effrayés? Je vous pose la question honnêtement. Elles ne sont pas toujours dignes de confiance? Le sont-elles vraiment? Souvenez-vous, souvent, très souvent, ils sont la conséquence de la peur tout simplement et ne proviennent pas du tout du fond du cœur. Et rien ne peut prouver tout ceci plus clairement que le fait bien connu que la grande majorité des personnes qui ont fait des promesses d'amendement sur leur lit de douleur et qui entendent parler du salut pour la première fois retournent dans le péché. Je répète, souvent il a été prouvé que de nombreuses personnes qui ont connu pendant des temps absolument catastrophiques de leur vie, certaines choses spirituelles pour leur âme et pour leur corps, sont retournées dans le monde pour pécher encore pire qu'auparavant. C'est une vérité absolue. Vous pouvez le croire ou pas le croire, ça c'est votre problème. Puissions-nous parler résolument de votre situation ? Ayons quelques preuves solides de votre repentance, de votre foi, de votre sainteté, afin que personne ne puisse un seul instant remettre en question votre état. Reposez-vous là-dessus, car sans cela, ceux que vous laissez derrière vous ne ressentiront aucun qu'un réconfort solide à propos de votre âme. À vos funérailles, nous pouvons utiliser la forme de la religion et nous pouvons exprimer des espérances charitables. Nous pouvons vous accueillir à la porte du cimetière et nous pouvons vous dire « Bénis ceux qui s'endorment dans le Seigneur ». Mais cela ne changera pas votre situation. Si vous mourrez sans vous convertir à Dieu, sans vous convertir à Jésus-Christ, sans repentance et sans foi, eh bien votre enterrement ne sera que celui d'une âme perdue, que vous le croyez ou pas. Vous aurez mieux fait de ne pas être né. Oh, excusez-moi de cette phrase. Ensuite, nous sommes supposés apprendre à partir de ces versets que les croyants en Christ, lorsqu'ils meurent, sont avec le Seigneur. Vous pouvez conclure ceci des paroles du Seigneur adressées aux voleurs pénitents. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur ? Il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et vous avez une expression très semblable dans l'Épître aux Philippiens, où l'apôtre Paul dit qu'il a le désir de s'en aller et d'être avec Christ. Philippe, chapitre 1, verset 23. Je dirai peu de choses sur ce sujet. Je voudrais seulement vous le présenter pour votre méditation personnelle. Pour mon esprit, c'est là une pensée pleine de réconfort et de paix. Les croyants après la mort sont avec Christ. Cela répond à de nombreuses questions difficiles qui autrement rendraient perplexe la pensée active et agitée de l'homme. La demeure des saints, leur joie, leurs sentiments, leur bonheur, tout cela semble être comblé par cette simple expression « Ils sont avec Christ ». Je ne peux pas entrer dans des explications complètes à propos de l'état particulier des croyants qui sont partis auprès du Seigneur. C'est un sujet grand et profond, tel que l'esprit de l'homme ne peut ni le saisir ni le sonder. Je sais que leur bonheur est loin d'être celui qu'il sera lorsque leurs corps ressusciteront, et cela au dernier jour, et que Jésus reviendra sur terre. Pourtant, je sais également qu'ils goûtent un repos béni, qu'ils se reposent de leur travail, de leur tristesse, de leur souffrance et de leur péché. Mais ce n'est pas parce que je ne peux pas expliquer ces choses qu'il s'ensuit que je ne suis pas persuadé qu'elles sont beaucoup plus heureuses qu'elles ne le furent jamais sur cette terre. Je vois leur bonheur dans le passage suivant, où il est dit « ils sont avec Christ ». Et lorsque je vois cela, j'en vois suffisamment. Si les brebis sont avec le berger, si les membres sont avec la tête, si les enfants de la famille de Dieu sont avec celui qui les aime et qui les a portés chaque jour de leur pèlerinage sur terre, eh bien, il me semble que tout va bien. Je ne peux pas décrire quel genre d'endroit est vraiment le paradis, parce que je ne parviens pas à comprendre quelle est la situation d'une âme séparée du corps. Mais je ne demande aucun autre point de vue plus éclatant que celui-ci, que Christ y est en tout cas présent. Toutes les autres choses comprises dans le dessin que l'imagination trace de l'état entre la mort et la résurrection ne sont rien en comparaison de tout cela. Je ne sais pas comment il y est et de quelle manière il y est, mais laissez-moi simplement vous faire voir dans le paradis. lorsque mes yeux se fermeront dans la mort, et il me semble que cela me suffit. Le psalmiste s'exprime fort bien. Il dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Psalme 16, verset 11. C'est un véritable adage que celui exprimé par une mère auprès de sa fille mourante qui tentait de la réconforter en lui décrivant ce que serait le paradis. Elle lui a dit, là, là, elle a dit à l'enfant, eh bien, là, tu ne souffriras plus jamais. Tu ne seras plus jamais malade. Là-bas, tu verras tes frères et tes sœurs qui t'ont précédé et tu seras toujours heureuse. Ah, ma chère maman, fut la réponse de l'enfant. Oh, maman, mais il y a une chose bien meilleure que toutes, et c'est que Christ sera surtout là. Chers amis, il se peut que vous ne pensiez pas beaucoup à votre âme. Il se peut que vous sachiez peu de choses à propos de Christ en tant que sauveur personnel et que vous n'ayez jamais goûté par expérience combien il est précieux. Et peut-être espérez-vous aller au paradis lorsque vous allez mourir. Ce passage est sûrement celui qui devrait vous faire réfléchir. Le paradis est un endroit où Christ est présent. Alors peut-il être un endroit dont vous jouirez? Il se peut que vous soyez un croyant, une croyante, et que pourtant vous tremblez à la pensée de la tombe. Elle semble froide et lugubre. Vous vous sentez comme si vous étiez devant quelque chose de très sombre, de très triste et de très inconfortable. N'ayez pas peur, mais soyez encouragés. Vous vous dirigez vers le paradis et Christ, Jésus, sera là. Et pour en savoir un peu plus sur le ciel, eh bien je vous conseille, s'il vous plaît, d'écouter le témoignage de Marietta. Vous pouvez écouter cela si vous avez Internet. Moi, je ne possède pas Internet, mais si vous l'avez, www.bibleexplique.ch. Croyez-moi, vous serez enchantés. Et il y a des témoignages qui disent, oh, quand j'ai écouté cela, je me suis immédiatement donné au Seigneur. La dernière leçon que nous sommes supposés tirer de tous ces versets, c'est que la part éternelle de l'âme de chaque homme et de chaque femme est près de Christ. Aujourd'hui, dit notre Seigneur au voleur pénitent, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il ne cite aucune période distante. Il ne parle pas de son entrée dans un état de bonheur, comme de quelque chose dans le très lointain. Il lui parle d'aujourd'hui, le jour même où tu es pendu sur la croix. C'est ce qui lui parle. Comme cela paraît très proche, comme ce mot « Amen », notre demeure éternelle terriblement près, le bonheur ou la misère, la tristesse ou la joie, la présence de Christ ou la compagnie des démons, tous sont très proches de nous. Il n'y a que un pas, dit David, entre moi et la mort. Notez 1 Samuel, chapitre 20, verset 3. Il n'y a qu'un seul pas, pourrions-nous dire, entre nous, et soit le paradis, soit l'enfer. Soit le paradis, soit l'enfer. Aucun d'entre nous ne réalise ceci comme il le devrait. Il est grand temps de nous débarrasser de l'état d'esprit rêveur dans lequel nous vivons à ce sujet-là. nous pouvons parler et penser, même à propos des croyants, comme si la mort était un long voyage, comme si le saint qui meurt s'était embarqué pour une longue traversée. Certains d'entre nous savent, par une expérience amère, quel temps long et lugubre il y a entre la mort et de ceux que nous aimons, et le moment où nous les enterrons et où ils disparaissent hors de notre vue. De telles semaines sont les plus lentes, les plus tristes, les plus pesantes de toute notre vie. Mais que Dieu soit béni, les âmes des saints qui nous ont quittés sont délivrés à l'instant même où leur dernier souffle est expulsé. Alors que nous pleurons, que le cercueil est préparé, que les vêtements de deuil sont fournis et que les derniers arrangements douloureux sont faits par la pastoresse ou par le pasteur, l'esprit de nos bien-aimés se réjouit dans la présence de Christ. Ils sont libérés pour toujours du poids de la chair. Ils sont là où ne s'agitent plus les méchants et sont là où se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Job chapitre 3, verset 17. Donc, chers amis, à l'instant même où les croyants meurent, ils sont au paradis. Notez bien cela. Leur combat est fini, leur lutte a cessé. Ils ont franchi cette vallée lugubre que nous devons tous suivre un jour. Ils sont tous passés au-dessus de cette rivière qui est sombre, que nous devons tous passer un jour, traverser. Ils ont bu cette dernière coupe amère que le péché a mélangée pour l'homme. Ils ont atteint ce lieu où la tristesse et les gémissements n'existent plus. Nous ne devrions sûrement pas souhaiter qu'ils reviennent, non? Nous ne devrions pas pleurer pour eux, mais pour nous-mêmes, car pour nous, soyons sincères, la lutte n'est pas encore terminée. Je crains que certains aient une sorte d'idée vague qu'il existe un certain intervalle ou un certain laps de temps entre la mort et leur état éternel. Ils s'imaginent qu'ils passeront par une sorte de changement purificateur et que bien qu'ils soient morts indignes, totalement indignes du ciel, qu'ils pourront finalement quand même y entrer, tels que des Hitler, tels que des violeurs d'enfants, et j'en passe. Mais ceci est, croyez-moi ou pas, ceci est quoi? Ceci est une erreur absolue. Il n'y a pas de changement après la mort. Il n'y a pas de conversion dans la tombe. Il n'y a aucun cœur nouveau attribué après le dernier souffle. Le jour même où nous partons, c'est pour toujours. Car le jour où nous quittons ce monde, nous commençons une situation éternelle. À partir de ce jour-là, il n'y a aucun changement spirituel. Tel que nous mourrons, nous recevrons également notre part après la mort, car l'arbre repose là où il est tombé. Si vous êtes un homme inconverti, ceci devrait vous faire réfléchir. Savez-vous que vous êtes proche de l'enfer? Si ce jour même vous devriez mourir, et si vous mouriez sans Christ, vous ouvririez immédiatement vos yeux où? En enfer et dans les tourments. Et maintenant, pour conclure, laissez-moi dire quelques mots et j'aurai terminé. Premièrement, cette étude peut tomber entre les mains d'un pécheur au cœur humble et contrit. Êtes-vous cet homme ou cette femme? Alors voilà pour vous cet encouragement. Voyez ce qu'a fait le voleur pénitent et faites de même. Voyez comment il a prié. Voyez comment il a invoqué le Seigneur Jésus-Christ. Voyez quelle réponse de paix il a obtenue. Frères et sœurs, pourquoi ne feriez-vous pas la même chose? Pourquoi ne seriez-vous pas également sauvés? Deuxièmement, cette étude peut tomber entre les mains d'un homme du monde qui est fier et présomptueux. Êtes-vous cet homme? Alors prenez garde. Voyez comment le voleur impénitent est mort comme il avait vécu. Et veillez de crainte de finir de la même manière. Oui, frère, oui, sœur, ne soyez pas trop assurés. Pas trop, de peur que vous ne mouriez dans vos péchés. Cherchez donc le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Tournez-vous vers lui, vers Jésus-Christ. Troisièmement, cette étude peut tomber entre les mains d'un croyant faisant profession de sa foi en Christ. Êtes-vous cette personne? Alors, prenez la religion du voleur pénitent, je dis bien, comme mesure pour prouver la vôtre. Veillez à ce que vous connaissiez quelque chose de la véritable repentance et de la foi salvatrice, de la véritable humilité et de la charité fervente. Frères et sœurs, ne vous contentez pas du critère que le monde a de la chrétienté partout, que les chrétiens sont de merveilleuses personnes, tous sauvés. Ça, c'est à des kilomètres de la vérité. Ayez la même pensée que le voleur pénitent et vous serez sage. Quatrièmement, cette étude peut tomber entre les mains de quelqu'un qui pleure, nous croyons, défunts. Il y a des chrétiens, je ne nommerai pas leur dénomination, qui croient cela. Ils ne font pas exprès. Êtes-vous l'un de ceux-là? Alors cherchez le réconfort dans ce passage de l'Écriture sainte. Voyez comment vos bien-aimés sont dans les meilleures mains. Ils ne peuvent pas être mieux. Ils n'ont jamais été aussi bien au cours de leur vie qu'ils ne le sont maintenant. Ils sont avec Jésus que leur âme ont aimé sur cette terre. Oh oui, cessez donc de pleurer. Tout simplement, réjouissez-vous plutôt qu'ils soient délivrés maintenant de leurs ennuis et qu'ils soient entrés dans le repos. Und fünft, et cinquièmement, et cette étude peut tomber entre les mains d'un vieux serviteur de Dieu ou une servante de Dieu d'un grand âge, une servante de Jésus. Êtes-vous de cela? Alors, par ces versets, voyez combien vous êtes proche de la maison, votre salut est plus près que vous ne l'avez cru. Encore quelques jours de travail et de peine, et le roi des rois vous enverra chercher, et en un instant, votre combat spirituel cessera, et tout ne sera que paix. Ça risque de m'arriver à un de ces jours. Vous savez, à passer 88 ans, en allant sur les 89, ça peut être demain. Alors Jésus vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est un peu mon cas, et je vous donnerai du repos. La personne qui vous lance cette invitation est plus grand, c'est le plus grand et le meilleur ami que l'homme ait jamais eu. Qui sait? Eh bien, c'est pas moi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Fils éternel de Dieu. Il est le seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il a tant aimé le monde qu'il a entrepris de payer la dette importante que nous devrions payer en mourant pour nous. Jésus-Christ, en mourant pour nous, a tout payer, à payer nos péchés, à verser son sang précieux pour nous sauver sur la croix du calvaire. Il est lui, celui qui est tout-puissant. Il est Dieu né de Dieu. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. En lui se trouve toute la plénitude. Il tient les clés de la mort et de l'enfer. Il est désormais le médiateur. Ce n'est pas le Monseigneur tel et tel. Le médiateur désigné entre Dieu et l'homme. Et un jour, il sera juge et roi de toute la terre. Lorsque quelqu'un comme lui parle, vous pouvez vous confier en lui en toute sécurité. À cause de son amour pour vous, il vous invite à venir à lui et il vous donnera du repos. Si vous sentez le lourd fardeau de la culpabilité de vos péchés, c'est une bonne chose. Jésus vous dit « Viens à moi ». Notez qu'il ne vous demande pas de travailler du matin au soir pour votre salut. Il ne vous demande pas de donner aux pauvres pour votre salut. Il ne vous dit pas que vous aurez à payer pour votre salut. Il vous invite à venir à lui tout simplement. De plus, il promet. Écoutez bien ce qu'il promet. Je ne mettrai pas dehors celui et celle qui vient à moi. À ce moment-là, réunis autour de la croix du calvaire, se tenait Marie, se tenait la mère de Jésus, et il y avait Saint Jean, son disciple bien-aimé, il y avait Marie-Madeleine et beaucoup d'autres. Le voleur mourant ne pria, écoutez bien ce que je vous dis, le voleur mourant ne pria aucune de ces personnes. Il s'adressa directement à Jésus le seul et l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il est venu à Jésus-Christ et Jésus-Christ lui a donné du repos ainsi que toutes les bénédictions du salut. Un véritable chrétien est une personne qui est parvenue à vivre en communion avec le Seigneur Jésus en tant que sauveur personnel. Il mène donc maintenant une vie de foi et de confiance en Jésus. Il s'appuie sur lui, il lui parle dans la prière, il travaille pour lui, il l'aime et il attend avec impatience la seconde venue de Jésus. L'apôtre Paul, ou Saint Paul, c'est pareil, a dit « Si je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Là où il y a une foi et une confiance authentique, Jésus sera connu en tant que véritable ami, vivant et personnel. Amen, amen. Chers amis, nous allons prier maintenant ensemble. Oh, alléluia, ça c'était un message percutant. Ô Dieu unique de tout l'univers, notre Père, jamais nous pourrons assez démontrer notre reconnaissance de l'œuvre énorme que votre Fils Jésus-Christ a accomplie à la croix pour que notre vie de mort spirituelle puisse être totalement transformée, changée en une vie de résurrection spirituelle. Oui, Jésus-Christ, oui, nous étions des morts vivants, et toi, Jésus-Christ, tu nous as rendus à la vie véritable. Nous désirons maintenant, plus que jamais, que notre vie devienne semblable à la tienne. Seulement en toi, nous trouvons tout ce que nous recherchons, tel que la vérité et la vie. Rien ici-bas, plus rien, peut nous retenir. Notre ciel commence au voile déchiré. Agneau de notre vie, nous te demandons, viens et éclaire tous nos pas de ta lumière divine. Merci de ce que tu as compassion. Merci pour ton amour, pour tous ceux qui souffrent. Cet amour ne change pas, jamais. Tu sauves ceux qui sont perdus, mais tu guéris aussi ceux qui sont malades et tu délivres ceux qui sont captifs. Merci d'aider maintenant chaque personne qui s'adresse à toi sincèrement en te soumettant humblement son problème spécifique tel qu'il est. Amen. Amen. Et chers amis, soyez bénis, car Dieu le Père vous aime. Son Fils Jésus-Christ vous aime tellement qu'il a donné sa vie pour mourir à la croix, versant son sang précieux pour vous libérer du péché totalement, pour l'éternité. Soyez bénis, et Dieu voulant, à demain matin, gloire à Dieu, au revoir, mes très chers amis.